La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Maï Binbin pour Mon frère fantôme, publié aux éditions Stock. Bonjour Maï Binbin.
Bonjour Loïc.
Alors votre roman nous emmène dans une ville que vous connaissez bien, Marrakech, avec un personnage double, Kamal, un homme qui a donc deux personnalités opposées ou complémentaires, c'est selon. C'est un roman très riche où vous laissez le lecteur libre d'interpréter à sa guise les situations que vous racontez. Pour commencer, comment est née cette idée géniale d'un personnage à deux faces qui m'a fait penser à Janus, célèbre dieu de la Rome antique?
Si on voit mes peintures, on voit souvent des têtes l'une imbriquées dans l'autre. J'ai toujours été habité par cette dualité. Alors l'idée est venue par mon éditeur américain qui a une jolie collection qui s'appelle Les Villes Noires. Il a fait Paris Noir, Londres Noir. Alors il demande à ses écrivains d'une ville ou d'un pays de raconter un petit polar en 15 pages, une nouvelle. Et à partir de ces 15 pages, il faut décrire un peu la ville. Et c'est très très sympa comme concept. Il y a le Paris noir qui est génial, il y a New York noir, et il a fait le Marrakech noir. Marrakech noir, il n'y avait pas, malheureusement pas, 30 écrivains de Marrakech, donc il a demandé aux écrivains marocains de participer à ce livre. Et alors, moi, j'avais pas l'habitude d'écrire des nouvelles, donc j'ai fait une nouvelle qui est presque un peu un petit polar. Et évidemment, le livre est sorti et je suis resté frustré parce que j'avais envie de m'étaler. Et c'est de là où est née l'idée de ce double Kamal, double personnage, c'est-à-dire deux personnes qui cohabitent dans un même corps et qui sont d'accord sur rien. C'est toute l'histoire de ma vie.
C'est un peu vous, pas mal.
Oui, absolument. C'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est un peu tout le monde. Le double Kamal renvoie à la dualité intérieure de chacun. Donc on est tous un peu tiraillés comme ça.
Il y a le personnage que l'on montre, il y a le personnage que l'on est, il y a le personnage que se représentent aussi les autres. C'est un peu ça, cette
oui,
dualité.
Oui, absolument. Et il y a toute cette contradiction entre soi et soi. L'un des personnages est attiré par l'école des religieuses. Moi, quand j'étais petit, j'étais chez les Bonnes Sœurs à Marrakech. Donc, je garde des souvenirs très très tendres par rapport à cette période. Et j'avais envie de raconter aussi ce que c'est que l'école des Bonnes Sœurs à Marrakech. C'est quelque chose. Et donc, c'est un personnage qui, l'un, vit dans le silence, l'ordre, la sévérité parfois, et qui adore ça. Et l'autre lui-même, l'autre Kamal, il aime le chaos de la Médina, c'est-à-dire les gens se roulent par terre, ils rient, ils crachent, ils battent. Ils sont, disons, vivants. Et c'est de part de moi-même, hein. Moi, j'adore me promener dans une église. J'adore le calme ou une mosquée, et j'adore le chaos de la place Jamalstein, par exemple.
Oui, finalement, on est plusieurs personnages à la fois, tour à tour dans la journée.
Absolument. Moi, en tout cas, c'est mon cas, et c'est pas de la schizophrénie. C'est juste deux parts d'une même personnalité. Et qui se complètent, comme vous avez dit au début, et qui peuvent être complémentaires, qui peuvent aussi s'affronter. Dans mon cas, ils s'affrontent de temps en temps. Et voilà, j'ai fait mon métier d'écrivain, je me suis amusé à délirer.
Alors, si on a tous une double personnalité, c'est rare de l'assumer. La particularité de Kamal, c'est qu'il est à la fois le narrateur et le héros du récit. Il dit « je », et il dit « il » pour parler de son fameux frère fantôme. Parfois, il écrit même « nous deux », May Bin Bin.
Absolument, absolument, mais parce que moi, quand je me bats avec moi-même, je passe ma vie à délibérer. Le général de Gaulle disait « quand je délibère, les jeux sont faits ». Mais moi, les jeux sont jamais faits. Quand je délibère, les jeux ne sont jamais faits. Et les deux personnages tirent chacun de son côté.
Alors, May Bin Bin, la difficulté pour le héros, c'est qu'il passe d'un monde à l'autre, celui des religieuses, comme vous l'avez dit, à celui de sa famille. Il passe d'une culture à une autre. Est-ce que c'est une métaphore sur le monde d'aujourd'hui, où chacun appartient finalement à plusieurs cercles et adapte son comportement aux différents milieux où il évolue? C'est valable notamment pour des gens qui appartiennent à une double culture.
Absolument. Mais moi, le français est ma langue maternelle, mais l'arabe aussi. Je suis dans ces deux langues.
Oui, c'est pas 50%, 50%,
non, c'est
2 fois 100%.
C'est 2 fois 100%. Mais c'est une espèce d'intégration des deux côtés. Et vraiment, je vis pleinement les deux cultures. Quand j'écoute Mkultum, mais je suis de fin fond de Marrakech. Mais quand j'écoute Léo Ferré, eh ben, je suis parisien jusqu'au bout des ongles. Et cette richesse-là, j'ai l'impression que, voilà, c'est très riche tout ça.
Alors, dans Mon frère fantôme, vraiment un livre très beau, très puissant, que je recommande à tous les auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient, il y a ces deux frères qui sont résumés en un seul, mais il y a aussi un autre frère, Omar. Malgré son jeune âge, il endosse le rôle de chef de famille après la mort du père. Il oblige même sa mère à quitter sa chambre pour prendre sa place. C'est un personnage de tragédie, lui. C'est pas là, on n'est pas dans la comédie.
Non, là c'est aussi un peu pour parler de ce machisme qu'il y a chez nous, où l'homme, même à 14 ans, quand il n'y a plus le père, le garçon est le chef de famille. Il faut que ça s'arrête. Et il vire. C'est un petit mafieux. C'est un gars terrible, mais tendre quand même. C'est un personnage que j'aime aussi. Dans sa violence, il va aller jusqu'au meurtre. Il est extrêmement violent. Et j'avais envie de parler de cette part de nous-mêmes où il n'y a pas d'équilibre entre les hommes et les femmes. Et j'avais envie de raconter la bêtise, parce qu'il va jusqu'au meurtre, jusqu'à tuer sa sœur, mais on va pas raconter l'histoire.
Oui, c'est un point de bascule, effectivement, mais on ne va pas spoiler, comme on dit, le roman. C'est un roman, May Bin Bin, sur le destin. Au début du livre, on a le sentiment que Kamal est promis un grand destin, mais les choses, finalement, ne se passeront pas comme prévu.
On est dans la tragédie grecque. Quels que soient les trucs du héros, il y a la chute. Il y a vraiment la chute. Et c'est un gars qui rêve d'être meilleur, qui rêve des étoiles. Mais il est sans cesse attiré par les siens. Ma mère me disait toujours, le fils du pauvre n'aura jamais de plumage. Les siens, les lui arrachent constamment. Je raconte ça dans le texte. Et voilà, donc... Il rêve, et soudain, il y a la chute. C'est vrai que mais on va pas raconter la fin.
On ne raconte pas la fin, mais c'est quand même pour donner un peu envie à nos auditeurs de tourner les pages de votre très beau roman, Mon frère fantôme. Alors, vous parlez, May Bin Bin, avec beaucoup d'affection et de bienveillance, du quartier de Marrakech où vit cette famille. Un quartier, écrivez-vous, qui n'a pas changé depuis 1000 ans. C'est quelque chose qui vous fascine dans cette ville, le fait que dans certaines rues, on peut avoir le sentiment que le temps s'est arrêté.
Ben, moi, je viens du fin fond de la Médina de Marrakech. Je suis né dans un quartier, dans une rue qui s'appelle Riad Zitoun Qadim, à Marrakech, et j'ai vécu avec ces petites gens. Je sais pas pourquoi on les appelle les petites gens, mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15-16 ans avec ce monde. Et donc, tout ce que j'écris, c'est autour de ces gens, qui sont d'une richesse absolument extraordinaire. Et je reviens 20 ans plus tard, et je les retrouve. J'ai l'impression que le temps n'est pas passé par là, que c'est immuable, que ça reste, ça bouge pas. Et voilà, donc c'est ce côté traditionnel. Et là encore, on peut parler de schizophrénie, parce que le Maroc se veut extrêmement moderne, mais il se veut extrêmement plongé dans la tradition. C'est-à-dire, on est dans la dualité à tous les niveaux.
Alors, vous racontez très bien aussi la place Jemaa el Fna à Marrakech. Vous parlez d'une cour des miracles qui fascine Kamal, mais qui terrifie son double. C'est une place qui plaît beaucoup aux touristes, mais pour votre narrateur, c'est un lieu effrayant. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je passais par là tous les jours. Donc le matin, j'allais à l'école, je traversais la place. Mais deux fois, je revenais le soir vers 6 heures, et en hiver, il faisait noir. Et vraiment, j'avais peur de traverser la place. C'est-à-dire, il y a la foule, mais il y a une solitude au milieu de cette foule. Et bon, il y a des charmeurs de serpents, il y a de la fumée. Il y a des... Pour un enfant de 7-8 ans qui devait traverser cette place des miracles tous les jours, eh ben c'était effrayant. Et donc, j'ai essayé de redonner ce côté, la raconter avec mes yeux d'enfant.
Et puis c'est une place qui est en perpétuel mouvement. Finalement, c'est un lieu vide, la place Jemaa el Fna. Elle n'existe que parce qu'il y a des gens qui vont et viennent tout au long de la journée, et la place n'est pas la même le matin, l'après-midi ou le soir.
Et je peux vous assurer que pendant ces 2 années de Covid, c'était une place morte. Il n'y avait pas les touristes. Les Marocains restaient chez eux. C'était la désolation totale. Là, je me repromène à Jemaa el Fna et je suis content de réécouter les gnawa, les chants des gnawa. Je suis heureux de voir les serpents, voir l'écartement sienne, voir le charmeur de pigeons. Il y a des gars qui font des dialogues avec les pigeons. C'est vraiment la cour des miracles, et c'est une cour qui change à toute heure de la journée. Le matin, c'est une ambiance, l'après-midi, une autre, à l'heure de la prière, c'est le calme plat, et puis ça reprend le soir avec les odeurs des vendeurs de saucisses, les ceux qui vendent la soupe de fèves qu'on appelle Bessara, que j'adore, ou alors les escargots qu'on mange avec les avec les épingles de nourrice. Voilà, il y a la vie qui reprend le soir, et c'est assez magique.
Alors, votre roman, il est un peu comme vous devant ce micro, il est vivant, on est véritablement plongé dans la vie de Marrakech, et il y a des moments vraiment savoureux. Il y a plusieurs passages que je pourrais citer. J'aimerais juste parler d'une scène. Le héros est au cinéma, on projette un film indien, mais la séance est brutalement interrompue parce que le projecteur est tombé en panne. Je crois même que l'un des personnages est tellement agacé qu'il veut casser les sièges. J'imagine que c'est une scène que vous avez vécue,
Maïlin Bin. Absolument. Ça, c'était monnaie courante. La bobine qui brûle. À l'époque, ça... ça arrêtait net. Et alors, le patron du cinéma venait sur la scène et racontait la fin du film. Autrement, on lui cassait les... On lui cassait les sièges qui étaient en bois à l'époque du cinéma Eden. Il porte ce joli nom qui se trouve en plein place Jemaa el Fna. Et moi, quand j'arrivais à avoir des sous, on allait voir les deux films, le Hindi avec Shami Kapoor et ses naïades et Bruce Lee. Bruce Lee, parce que Bruce Lee, c'était quelque chose. Mais le cinéma, c'était pas comme le cinéma ici où on n'entend pas le vol d'une mouche. Le cinéma là-bas, quand quelqu'un s'approche de Bruce Lee par derrière, mais c'est tout le cinéma qui le prévient. Il crie, ça, c'était vivant. C'est des moments vraiment.
C'est un moment de fête, de réjouissance.
Ah, de réjouissance. C'était voilà. On sortait de là, on était heureux. Et les films hindous, c'était en hindou. On comprenait pas. Donc chacun se faisait son interprétation. Il y avait 1000 interprétations et on n'était pas d'accord. Bon, à la fin, il y avait toujours le héros qui partait avec sa promise, contrairement à la famille qui veut l'en empêcher, et ils vont sur une île déserte ou n'importe quoi. Donc il y a toujours, mais on ne comprenait pas bien l'histoire. On fabriquait nos propres histoires. C'est comme lire un livre.
C'est comme écrire un livre finalement. Vous êtes en train de faire ce que vous faisiez dans le cinéma en écrivant un livre.
Absolument.
Vous racontez la fin.
Je raconte. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais moi tous mes livres se sont passés, c'est-à-dire j'ai campé tous mes livres dans cette rue, sur cette place. Mais vraiment, je me demande même si on n'écrit pas le même livre indéfiniment. Et j'ai toujours écrit sur cette place, sur le Maroc. Le seul livre qui se passe à Paris, c'est quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Marrakech. Évidemment, j'avais la nostalgie de Paris, donc j'ai installé mes héros dans Paris pour raconter dans, je sais plus quel livre, Terre d'ombre brûlée. J'ai installé mon personnage ici à Paris.
Vous êtes un écrivain joyeux. On vous entend, vous riez à l'antenne. Vous êtes l'un des rares écrivains. On sait qu'on va passer véritablement un moment de joie avec vous. Vous êtes dans le même état quand vous écrivez?
Non, quand j'écris vraiment, c'est pénible. Je m'assois tous les matins entre 8h et midi. Je suis dans mon bureau. Je suis dans les dictionnaires, j'ai 9 volumes de Robert, je cherche maintenant c'est avec l'ordinateur, mais à l'époque j'avais les vrais volumes, et je cherche le mot juste. En fait, c'est galère, hein. En revanche, quand je suis dans mon atelier, là, parce que le matin, j'écris, et l'après-midi, je peins. Et dans mon atelier, là...
Vous êtes un homme double, comme
oui,
Kamal.
Oui, oui, absolument, mais c'est ça. Et même triple, moi, dans une vie antérieure, j'étais prof de maths. Donc, on est plusieurs, hein. Il y a plusieurs maïs.
Et vous avez également des activités associatives importantes au Maroc.
Oui, oui. Là, je suis extrêmement heureux parce qu'on vient d'ouvrir le 5e centre culturel à Marrakech. Et évidemment, c'est le plus beau des centres. Je me suis pas pressé pour faire celui de Marrakech. Mais là, c'est un riad au milieu de, à 2 pas de la Médina, et j'ai 1000 gamins de la place. Ces gamins dont je parle dans mes livres, et ben maintenant, on essaie de les sauver et de les mettre dans ce centre culturel où il y a un cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des cours de théâtre, des cours de hip-hop. Ils adorent les hip-hop, les gosses.
Voilà, la culture, c'est véritablement ce qui peut sauver les jeunes en déshérence.
Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la culture. Leur apprendre à aimer la beauté, le riad de Marrakech, vraiment, si vous avez le temps un jour, je vous le ferai visiter. C'est un palais, c'est un véritable palais que j'ai pu récupérer en me battant pendant des années, et qui j'ai eu le soutien d'un ministre qui m'a fait confiance. Et c'est vraiment génial de voir les gamins jouer aux échecs dans un lieu de 1000 mètres carrés avec des salles au plafond sculpté, c'est magnifique. Donc, apprendre aux jeunes de préserver leur patrimoine, d'abord de l'aimer, on leur dit ça, c'est à vous. C'est pas que pour les riches, c'est pour vous aussi. Et là, nous sommes extrêmement heureux avec le cinéaste Nabil Ayouch. On est 2 dans cette affaire. Et voilà, on a 5 centres, on est en train d'en ouvrir plusieurs autres dans toutes les villes du Royaume.
Merci Maï Binbin d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient. Je recommande vivement à nos auditeurs la lecture de ce très beau livre, très beau roman, Mon frère fantôme, publié aux éditions Stock. Merci.
Merci, merci Loïc. Merci beaucoup pour l'invitation.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.